Kiosque Magazine.
Jeudi 30 octobre, il fait un temps magnifique sur Montréal, à croire que le mois d'octobre fait des efforts pour nous laisser un bon souvenir. Mais vous savez quoi, on va quand même vous parler d'économie et d'emploi au cours de la prochaine heure. Moi et Éric de Belval. Éric, bonjour.
Bonjour, François.
À la mise en onde, Kamal Salifou. Je le dis tout de suite, oh, j'ai toujours peur d'oublier le type qui met en onde et de ne pas être là la semaine prochaine parce qu'il va m'avoir coupé, alors je prends pas de chance, voilà. Qu'avez-vous prévu cette semaine?
Eh bien, on va commencer par parler de votre cote de crédit. Au début du siècle, on voyait parfois un écriteau dans certains commerces et dans les cafés sur lequel on pouvait lire « Le crédit est mort, chien de client, tu l'as tué ». Aujourd'hui, le crédit est ressuscité et au-delà de toute espérance, puisque la crise des subprimes l'a montré, on peut y accéder largement au-delà de ses capacités de remboursement. Mais sans tomber sans des excès, il est difficile de vivre sans une cote de crédit rassurante pour les différents prêteurs. Alors comment en prendre soin ? Ensuite, je vous parlerai de l'opposition au transport du pétrole qui s'amplifie et contre le grondement des flots que voudraient emprunter les énormes tankers pétroliers avec leurs moteurs eux aussi grondants, un autre grondement se lève et s'amplifie. La colère monte et la défense du Saint-Laurent s'organise. La voix du politique, celle de l'économie existe et sont souvent utiles, parfois respectables, mais la voix du peuple mérite une attention particulière, surtout lorsqu'elle semble être celle qui sonne juste. Et puis pour finir en ce qui me concerne, eh bien, voulez-vous des céréales qui ne poussent pas dans la terre, des insectes comme source de protéines, de la viande reconstituée à partir de cellules souches? C'est peut-être pas une question de choix, mais une simple question de temps.
J'ai déjà moins faim. Pour ma part, je vais vous parler de l'économie américaine où, ça y est, on va arrêter de racheter les bons du Trésor. En fait, la Fed va arrêter de racheter les bons du Trésor. On va voir les conséquences que ça pourra avoir et l'ampleur du phénomène économique. Peut-être le plus important jamais fait par un pays industrialisé. Ensuite, les vraies conséquences de la crise économique de 2008. Et je vais vous en parler, vous allez voir, c'est assez pathos, mais je pense que ça mérite d'être abordé. Je me garde un petit mystère. Mais pour commencer, dans quelques instants, le fonds de solidarité, en fait, les fonds de placement de travailleurs et les crédits d'impôt y attachés, on revient sur le sujet parce qu'on revient actuellement sur le sujet aussi à Ottawa. Tout ça dans quelques instants. À Ottawa, une commission parlementaire se penche sur des sujets fiscaux. C'est la commission Godbout et ça a permis de revenir sur le sujet des crédits d'impôt pour les fonds de solidarité, le fonds de travailleurs. En fait, je vous rappelle que le gouvernement fédéral a annoncé l'abolition de sa partie du crédit d'impôt. C'est quand même 15% et c'est un risque majeur pour les fonds de travailleurs qui sont des fonds de placement à risque. Ça a permis à Gérard Bérubé du Devoir de signer le 30 octobre 2014 un texte sur le sujet qui s'appelle « Le plaidoyer pour les fonds » et c'est dans la série des perspectives. Existe-t-il une différence entre un investissement fiscal et une dépense fiscale? Le Fonds de solidarité a une petite idée de la réponse et démonstration en a été faite devant la commission Godbout mardi. À Ottawa, maintenant, de faire la distinction entre crédit d'impôt et incitatif à la retraite. La présence du Fonds de solidarité FTQ devant la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise nous ramène à cet enjeu fédéral. À sa décision budgétaire prise par Ottawa d'abolir progressivement à compter de 2015 le crédit d'impôt de 15% accordé par le fédéral à l'achat des parts de fonds de travailleurs. Une décision prise de retirer à des investisseurs, issus essentiellement de la classe moyenne, une invitation à l'épargne retraite. Une décision prise de retirer à l'économie québécoise un incitatif servant de levier à l'investissement privé en soutien à l'emploi. Dans le communiqué accompagnant sa présentation devant la commission Godbout, le président et chef de la direction du Fonds de solidarité, Gaétan Morin, a tenu à rappeler que le crédit d'impôt provincial pour fonds de travailleurs répond efficacement à deux enjeux socio-économiques cruciaux pour le Québec, l'épargne pour la retraite et l'investissement dans les entreprises. Il a été suggéré de faire la différence entre un investissement fiscal et une dépense fiscale. Et il a souligné aussi que Québec récupère son investissement en moins de 3 ans, sans que les retombées économiques disparaissent pour autant par la suite. Et que chaque dollar de crédit d'impôt consenti aux actionnaires du fonds, et non au fonds lui-même, faut-il mettre en exergue, génère 5,68 $ de capital investissement non garanti mis à la disposition des entreprises du Québec. Du point de vue de l'investisseur, le fonds affiche un ratio de charges d'exploitation de 1,4% contre une moyenne de 2,5% pour un fonds commun de placement équilibré. Il faut mettre tout cela dans la perspective qu'à Ottawa, si le gouvernement passe aux actes, Le crédit d'impôt fédéral de 15 % sera éliminé graduellement à partir de 2015, une décision budgétaire encore difficilement compréhensible. Si l'on regarde les choses autrement, l'acheteur d'une action reçoit un crédit d'impôt combiné fédéral-provincial de 30 % à l'achat pour un maximum de 1500 $ correspondant à un investissement plafonné annuellement à 5000 $. En contrepartie, le fonds fiscalisé doit consacrer 60 % de son portefeuille à des investissements plus à risque, généralement sous forme de prise de participation dans des PME. Aussi, l'actionnaire ne peut retirer son épargne avant l'atteinte de la retraite, sauf situation financière particulière ou dans le cadre d'un régime d'accession à la propriété ou d'éducation postsecondaire, ce qui apporte pérennité et accroît la permanence des capitaux investis. Tel est le contrat inhérent. Le crédit d'impôt est un avantage fiscal offert à l'actionnaire. Il s'agit d'une prime offerte par les gouvernements à l'actionnaire du fonds pour le risque que les gouvernements ne prennent pas. Et il permet au fonds de réussir la lourde tâche de transformer une épargne retraite en capital de risque de manière rentable pour l'actionnaire. Il est aussi reconnu et accepté que les actions des fonds de travailleurs avec leur crédit d'impôt afférent deviennent une voie d'allègement du fardeau fiscal de la classe moyenne. Elles se veulent également un puissant incitatif à l'épargne retraite, alors que moins du quart des PME offrent un régime complémentaire de retraite et moins du tiers un REER collectif. 4 Québécois sur 10 n'ont aucune épargne retraite. Et les deux tiers n'ont pas de régime complémentaire, ne cessent de répéter les dirigeants du Fonds de solidarité qui rappellent que le tiers des quelques 614 000 actionnaires n'ont que le Fonds de solidarité comme caisse de retraite. Cette logique vaut pour Fonds d'action CSN. Le taux d'épargne du Québec diminue depuis 20 ans. Il est près de 3 fois inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. À la retraite, plus de 60 % des travailleurs ne pourront pas maintenir leur niveau de vie. Le fonds est d'une efficacité remarquable pour ce qui est de l'incitation à l'épargne. Il compte près de 614 000 actionnaires majoritairement issus de la classe moyenne. Plus du tiers ont investi dans un REER pour la première fois en le faisant au fonds. Une grande majorité d'entre eux ont ensuite contribué à un REER d'une autre institution financière, a précisé Gaétan Morin mardi. Doit-on comprendre que le gouvernement fédéral préfère verser des suppléments de revenus garantis? Et j'avais annoncé en commençant à lire que c'était à Ottawa qu'on se penchait sur les mesures fiscales. Évidemment, la commission Godbout siège à Québec. Voilà, j'ai honte. J'avais dit Ottawa alors que c'était Québec. Mais ceci dit, la question mérite d'être posée puisqu'à partir de 2015, le crédit d'impôt fédéral de 15 % s'en va. Si Québec fait la même chose, il n'y aura plus aucun avantage fiscal à investir dans un fonds de risque comme le fonds solidarité de la FTQ ou fonds d'action de la CSN. Ça revient à condamner à mort ces outils financiers-là qui offrent quand même plus de risques et plus de contraintes en échange de crédits d'impôt majorés. Allez, on peut pas faire une émission économique en Occident si on ne parle pas de pétrole. Et je vais profiter de l'occasion pour tout de suite vous dire qu'il y a une étude qui est sortie cette semaine, une étude qui tend à prouver que une des raisons pour lesquelles on veut passer un grand pipeline, le pipeline transcanadien, c'est assurer l'indépendance énergétique du Québec. Or, il y a une étude qui est venue dire que non, ça n'a aucun rapport, puisque le simple fait d'inverser la ligne 9B suffit à combler les besoins du Québec. Mais bon, j'ai pris sur votre temps, voilà, mais je l'ai quand même dit. Voilà.
Vous avez très bien fait, et on a souvent parlé de cette question de transport de pétrole. Eh bien, d'après les derniers articles qu'on avait repérés, on craignait d'assister à une énième lutte du pot de fer contre le pot de terre. Ben, il n'est pas absolument certain que cela se produise. Et si ça devait quand même arriver, ce ne sera pas sans protestation, voire sans lutte. Et c'est une véritable opposition qui semble surgir. Et Brian Miles, dans Le Devoir du 27 octobre, nous en parle dans un article qui s'appelle « L'opposition au transport de pétrole s'amplifie ». Le pétrole sale de l'Ouest canadien n'est pas le bienvenu sur le majestueux Saint-Laurent. Déjà, j'adore cette phrase introductive. Le mouvement d'opposition au transport maritime du brut des sables bitumineux est loin de faiblir. Plus de 2500 personnes venues de tout le Québec ont manifesté dimanche à Sorel-Tracy à l'invitation de la Ligue richeloise contre la tyrannie pétrolière. La Ligue richeloise contre la tyrannie pétrolière. Élus, écologistes et citoyens de tous les âges envoient un message sans équivoque. L'écosystème du fleuve Saint-Laurent est trop précieux pour être transformé en vulgaire autoroute pour l'exportation des sables bitumineux. Le metteur en scène Dominique Champagne, un natif de Sorel, a exhorté le gouvernement à se doter d'un plan de sortie du pétrole au lieu d'encourager l'exploitation des sables bitumineux. On a le devoir de refuser de ce qui se passe et d'exiger de s'en aller vers le monde dans lequel on veut vivre, a-t-il dit sous les applaudissements de la foule. Monsieur Champagne est inquiet des conséquences d'un déversement pétrolier dans un écosystème aussi fragile et riche que le Saint-Laurent. Il s'est montré critique des lacunes dans la sécurité du transport maritime. Il y a une dizaine de jours, un navire qui devait faire le plein de pétrole des sables bitumineux au port de Sorel-Tracy a été stoppé aux Escoumins parce qu'il ne respectait pas la réglementation canadienne. La pompe à incendie d'urgence du bateau était hors d'usage. « Nous allons le fixer, nous autres, les standards du monde dans lequel on veut vivre. On veut vivre à côté d'un fleuve propre », a dit M. Champagne. Le Conseil des Canadiens partage les inquiétudes du metteur en scène. La semaine dernière, l'organisme a porté plainte à l'UNESCO, une agence des Nations Unies qui a attribué au lac Saint-Pierre le statut de réserve mondiale de la biosphère. Le Conseil demande à l'UNESCO de faire pression sur Suncor pour que la compagnie pétrolière interrompe le transport maritime du brut. Suncor transporte par rail le brut des sables bitumineux jusqu'à Sorel-Tracy. Le pétrole est entreposé dans les réservoirs de Kildare. D'imposants pétroliers de 240 mètres de longueur sur 42 mètres de largeur feront le plein à un rythme de 2 à 3 fois par mois. Ils emprunteront la voie maritime du Saint-Laurent, fragile et risquée pour la navigation, avant de mettre le cap sur le plein Atlantique. C'est la troisième manifestation d'envergure, après celle de Kakuna et de Bécancour, dont on avait parlé. Les participants de dimanche ont fait mentir le porte-parole de TransCanada, Philippe Canon. Lors de la manifestation contre le port pétrolier de Kakuna, le 11 octobre dernier, il avait qualifié 2500 manifestants présents d'opposants professionnels, venus notamment de Montréal. Le Devoir a pu voir dimanche quelques 2500 personnes venues de Sorel-Tracy, de Trois-Rivières, de Gatineau, des communautés autochtones de Kanawake et d'Odanak, et même un couple des îles de la Madeleine. Raymond Gauthier et Annie Landry ont fait le voyage de l'île du Havre-Aubert jusqu'à Sorel-Tracy pour défendre leur fleuve. Ça fait 40 ans que les pétrolières et les gazières nous promettent la richesse. L'air pur et l'eau pure que nous avons, c'est notre richesse, dit-elle. Derrière eux se profilent des navires qui ressemblent à des mastodontes dans cette partie du fleuve presque aussi étroite qu'à Québec. Leur gendre, John Foley, est inquiet. Laisser d'aussi gros pétroliers passer sur le fleuve, c'est chercher le trouble. Le Saint-Laurent, c'est plein d'épaves et ce n'est pas pour rien. « La navigation y est difficile », observe-t-il. L'écologiste Laure Varidel est emballée par cette mobilisation qui est à la fois locale et nationale. Selon la cofondatrice d'Équiterre, il y a des enjeux tout aussi importants que la protection de l'écosystème du Saint-Laurent dans cette bataille pour mettre les pétroliers en cale sèche. La Colombie-Britannique et les États-Unis ont déjà barré la voie au pétrole des sables bitumineux. Pour les compagnies pétrolières, la seule façon d'exporter leurs produits vers les marchés étrangers est d'emprunter la voie maritime du Saint-Laurent. En ce moment, l'expansion des sables bitumineux de l'Alberta dépend du Québec. Elle dépend de notre volonté à nous de laisser passer ce pétrole. La seule voie qui reste pour l'expansion, c'est la voie de l'Est, observe-t-elle. Le pétrole bitumineux étant le plus polluant, le combat de Sorel-Tracy est aussi le combat pour la planète, estime Mme Varidel. On a au Québec un combat immense qui ne concerne pas juste les belugas et nos petits milieux. L'impact des sables bitumineux sur le réchauffement climatique est très important, explique-t-elle. Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, a accompagné les manifestants jusqu'aux installations de Kildare. Il a déploré le manque de transparence de Québec, d'Ottawa et des pétrolières qui ont mis la ville devant un fait accompli. On est pris avec ça. On nous a mis ça en pleine gueule et personne n'a été consulté, a-t-il dit. Ce projet-là n'est pas compatible avec nos projets de développement. L'ancienne ministre péquiste des Ressources naturelles, Martine Ouellette, et le chef du Bloc québécois, Mario Beaulieu, ont tous les deux dénoncé un projet dépourvu de retombées économiques pour le Québec. « C'est un projet qui ne fait pas de sens », a affirmé Mme Ouellette. « Je suis loin d'être convaincu, je ne vois aucun intérêt économique pour le Québec. » Le premier ministre Philippe Couillard a dit que le Québec devait apporter sa contribution pour l'économie du Canada et accepter l'exportation du pétrole des sables bitumineux sur le fleuve Saint-Laurent. Je n'ai jamais vu un gouvernement au Québec, tout parti confondu, descendre aussi bas dans son appui fédéral, a déploré Mme Ouellette.
Oui, il faut dire aussi que ça va rejoindre éventuellement plusieurs autres problématiques, puisque ces pétroliers-là, on les charge en eau douce de pétrole, donc on va les charger un peu plus parce qu'arrivant en eau salée, ils vont flotter un peu plus haut. Éventuellement, il va falloir poser des questions sur le dragage du fleuve. C'est un débat qui revient constamment. Est-ce qu'on va recreuser le fleuve et donc appauvrir le lac Saint-Pierre? Tout ça pose des questions écologiques majeures et on risque d'être mis devant le fait accompli si on ne se mobilise pas maintenant. On veut du green, 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 green washing.
avions, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer,
on veut du
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du greenwashing.
On cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du greenwashing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 washing.
Trio qui chantait Greenwashing. Je vous parle en début d'émission de ces conséquences de la crise économique ou comment on doit la mesurer. Je vous rappelle que la crise de 2008, effectivement, si vous vous rappelez des papiers commerciaux à valeur adossée, les junk bonds finalement, c'est une coupe d'allumés qui ont voulu faire un peu plus d'argent. Et qu'est-ce que ça donne en termes pratiques, la conséquence de leurs actes? Eh bien, Isabelle Paré, dans Le Devoir, a signé le 28 octobre un texte qui nous fait état d'une de ces conséquences-là. Ça s'intitule, et le titre dit déjà pas mal tout, « La récession a projeté 3 millions d'enfants de plus dans la pauvreté ». Et ça, c'est dans les pays riches. 3 millions de plus dans la pauvreté. Pas moins de 3 millions d'enfants vivant dans les pays riches ont basculé dans la pauvreté depuis le début de la récession en 2008. Alors que la crise a fait caracoler le taux de pauvreté infantile dans 23 des 41 pays les plus riches de la planète, le Canada, avec une poignée d'autres États, a réussi à limiter les impacts de la crise sur les plus jeunes de la société. Un rapport rendu public aujourd'hui par l'UNICEF démontre que la plus grande récession survenue depuis la crise de 1929 a frappé de plein fouet les enfants, beaucoup plus que toute autre catégorie de personnes entre 2008 et 2012. Touchés par le chômage, le glissement des revenus familiaux et les compressions assénées dans les programmes sociaux, les enfants passés sous le seuil de pauvreté ont surpassé de 2,5 millions en nombre ceux qui en sont sortis, relate le rapport. Dans les pays les plus développés, le tiers des familles ont encaissé des pertes salariales et ce sont les familles nombreuses qui ont le plus écopé, la moitié voyant leur revenu médian reculer. Le nombre d'enfants qui ont grandi dans des ménages sans emploi a triplé au Danemark et a doublé en Espagne et au Portugal. Si, de façon générale, la pauvreté chez les enfants dans les pays développés ne semble avoir progressé que de 3 points de pourcentage, 2 % dans la population générale, cette statistique masque une autre réalité, celle de pays comme la Grèce, l'Islande, l'Italie ou l'Irlande, où la proportion d'enfants pauvres a explosé de 50 % en 4 ans. La grande récession a fait peser le poids de la crise sur les enfants. La riposte mondiale à la grande récession n'a pas prêté attention aux conditions de vie actuelles et futures des enfants, note le rapport Bilan Innocenti 12 de l'UNICEF. Plus de 76 millions d'enfants vivent aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté dans les 41 pays les plus développés de la planète. Aux États-Unis, le nombre de personnes à court d'argent pour nourrir leur famille a doublé, passant de 10 à 20. En Grèce, en Italie et en Estonie, deux fois plus de familles ont été incapables de se procurer de la viande, du poisson ou du poulet un jour sur deux. Dans ce contexte, l'UNICEF insiste sur l'impact dévastateur de cette crise sur le développement, la santé globale et le bien-être futur de ces enfants de la récession. Ils, les enfants, essuient les conséquences de la modification de leur régime alimentaire, de l'abandon du sport, de la musique ou d'autres activités, ou du manque d'argent pour acheter des fournitures scolaires, note le rapport, ajoutant que la pauvreté a aussi forcé des familles à quitter leur domicile ou même leur pays. Le Canada et d'autres pays se démarquent toutefois du lot et ont réussi, même dans un contexte de crise mondiale, à faire reculer la pauvreté chez les enfants, observe l'UNICEF. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à sortir 180 000 enfants de la pauvreté au Canada entre 2008 et 2012. La moins bonne, c'est que la situation s'est détériorée pour les familles les plus pauvres, explique David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. Si le Canada s'en tire mieux que d'autres pays occidentaux, c'est en raison des crédits d'impôt, prestations et mesures fiscales favorables aux familles maintenues ou mises en place pour contrecarrer les effets de la crise. Cela démontre que l'adoption de politiques d'aide à l'enfance a un impact majeur sur leur sort en temps de crise. En Australie, des prestations spéciales ont été accordées aux familles d'enfants d'âge scolaire et c'est le pays où le taux de pauvreté a le plus reculé en Occident, soutient M. Morley. D'ailleurs, le porte-parole canadien de l'UNICEF affirme que le Canada, comme tous les pays occidentaux, devrait se doter d'un commissaire à l'enfance pour s'assurer que les politiques nationales accordent la priorité aux plus jeunes en période de soubresaut économique. À l'instar de ce qui existe dans le domaine de l'environnement, M. Morley plaide même en faveur d'un bureau d'audience publique sur l'enfance qui jaugerait de l'impact de diverses politiques sur les enfants et leurs familles avant qu'elles ne soient adoptées. Oh, la bonne idée! Outre le Canada, 17 autres pays ont bien géré l'impact de la récession et vu leur taux de pauvreté infantile diminuer en dépit de la récession, notamment la Norvège, la Finlande, la Pologne, le Chili et la République slovaque, où la pauvreté a reculé de 30 %. Pendant ce temps, dans les pays méditerranéens, la crise a effacé des années de progrès en 4 ans, notamment les pays aux prises avec le plus grand endettement. En Grèce, la situation des familles grecques a essuyé un recul de 14 ans, alors qu'en Espagne, en Irlande et au Luxembourg, c'est presque une décennie de progrès qui a été effacée. La récession a exposé 619 000 enfants à la pauvreté en Italie, près d'un demi-million en France et 2 millions au Mexique. Et je vous le rappelle tout ça parce que quelques apprentis sorciers ont voulu faire plus d'argent sur le marché d'échange. C'est assez angoissant. Et ces gens-là, aujourd'hui, malheureusement, eux autres n'ont pas faim. C'est triste.
Savez-vous, François, que Google investit dans les jeunes entreprises montréalaises? C'est intéressant, non? Les portes de Google seront désormais un peu plus accessibles pour les jeunes entreprises technologiques grâce à un partenariat entre le géant californien et la maison Northman. Ça a été dévoilé vendredi. Il y aura une contribution financière, l'équivalent de 100 000 dollars en crédit pour l'utilisation de services. Espérons que ça fera pousser des nouvelles plantes par ici.
Je vous parlais de pauvreté tout à l'heure. Eh bien, sachez qu'il y a des chercheurs de l'Université de York et de l'Alliance canadienne qui ont conclu que si le gouvernement fédéral investissait 46 $ de plus par Canadien, on pourrait réduire considérablement le phénomène de l'itinérance au Canada. Il faut savoir que le gouvernement fédéral s'est progressivement désengagé des logements sociaux depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Le résultat net, bien, on peut le voir dans nos rues. Et c'est quand même assez stressant.
Alors, on est content de savoir que Google arrive à Montréal, mais Ford choisit le Mexique au détriment de l'Ontario pour ouvrir une usine de fabrication de moteurs pour son modèle Fiesta. Ça a été révélé par le syndicat aujourd'hui. Alors, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, hein, et tout le monde est déçu là-bas. Alors, on a des formules de politiciens intéressantes. Le gouvernement, l'industrie automobile et les travailleurs s'engagent à trouver des façons pour assurer des investissements qui permettront de rebâtir l'industrie manufacturière, bla, bla, bla.
Allez, on parlait des drones qui font absolument tout maintenant. Eh bien, j'en ai vu deux autres cette semaine, des drones intéressants. Un drone britannique, d'abord, qu'on se prépare à mettre en marché, qui est le drone sauveteur. Alors, sachez que si vous êtes en train de vous noyer au large, eh bien, le drone peut décoller et être sur vous une minute avant le sauveteur. Vous larguez une bouée, ce qui va vous permettre d'attendre la venue du sauveteur et non pas le remplacer complètement. Pendant ce temps-là, aux Pays-Bas, il y a un autre drone qui, lui, peut, en suivant les coordonnées GPS du téléphone cellulaire qui a appelé l'aide, déposer un défibrillateur à côté de la victime de façon à ce qu'on puisse rapidement réanimer son cœur. Est-ce que c'est pas beau tout ça?
Oui. La Google Car est dans le coup?
Non, pas encore.
Bon, vous savez quelle est la ville québécoise la plus entrepreneuriale?
Thetford Mines.
Bravo, effectivement, c'est celle qui a déposé le plus de licences et de permis pour développer une entreprise. Alors, on la salue.
Et c'est d'autant plus méritoire dans le cas de Thetford Mines. Je vous rappelle que c'était une des capitales de l'amiante jadis, une ville mono-industrielle qui doit se réinventer par la force des choses. Alors, c'est une excellente nouvelle. Tiens, une sortie du ministre des Finances, Leitao, le ministre des Finances du Québec, a soulevé la colère du milieu communautaire. Et je vous en parle rapidement, puisque le ministre Leitao a avancé l'idée que le milieu communautaire pourrait remplacer l'État dans certaines de ses fonctions, puisqu'on est bien placé, on est proche des gens, un peu comme on le faisait ici dans le temps où ça s'appelait la magnétothèque et où on offrait un vrai service aux communautés en livrant des livres et en les recevant et tout et tout. Eh bien, le milieu communautaire a réagi aujourd'hui d'abord avec colère en disant « ça n'a aucun sens ». Ils ne sont pas partout sur le territoire, ils n'ont pas les mêmes outils que Québec, les gens qui y travaillent sont beaucoup moins payés, ça reviendrait à de l'exploitation et pour Québec à se décharger vers des gens qui ne sont pas équipés actuellement pour assurer les services.
Pourtant, les revenus de l'État sont en hausse, le saviez-vous? Elles ont augmenté au-delà des espérances du gouvernement au cours des 4 premiers mois de l'année. 4% d'avril à juillet sur une prévision de croissance de 3,6%. Donc, c'est pas mal, hein? C'est le ministre des Finances qui l'a annoncé et on espère qu'il sera fait un bon usage de cet argent.
En terminant, je reviens avec mes robots pour vous parler du Japon où Nestlé se prépare à employer des robots pour vendre ses machines à café à dosette, ce qui nous fait deux erreurs, remplacer un humain par un robot et ensuite boire du café en dosette. Mais bon, enfin, c'est mon opinion personnelle. On fait une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission.
Écoutez Kiosque Magazine.
On est de retour pour la deuxième partie de cette émission. Et maintenant, de quoi parlons-nous déjà? J'ai complètement oublié sur quel sujet.
On parle des docteurs Folamour qui inventent la nourriture du futur.
Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je suis contre l'amalgame de l'UFA dans votre article, mais on pourra en rediscuter.
Ouais, écoutez, ça va donner un sujet de discussion intéressant. Moi, je suis contre l'amalgame du docteur Folamour de Stanley Kubrick avec l'agriculture, parce que bon, il y a quand même des catégories un peu différentes. Cela dit, je ne sais pas si vous avez en mémoire le film de Kubrick, qui est probablement son meilleur film, à mon sens, ou un fou furieux. Enfin, c'est une allégorie sur...
La chevauchée de la bombe, c'est...
Voilà, c'est ça. maintenant, peut-être que les docteurs Folamour sont plus pacifiques. Néanmoins, ils nous proposent des céréales qui poussent pas dans la terre, des insectes comme source de protéines, des viandes reconstituées à partir de cellules souches. Alors, ça a intéressé le Nouvel Observateur dans un article qui est signé, là, j'exagère un petit peu, deux journalistes, Philippe Boulet-Gercourt et Dominique Nora, et qui s'appelle « C'est Dr Folamour qui invente la nourriture du futur ». Une étrange alliance de geeks de la Silicon Valley, milliardaires de la high-tech, chercheurs iconoclastes et fermiers urbains veut changer radicalement la façon dont nous nous alimentons. Comment nourrir une planète qui comptera plus de 9 milliards d'habitants en 2050 et dont la consommation de viande va tripler en 30 ans? Aux États-Unis, une poignée de geeks, scientifiques, entrepreneurs, financiers, mettent au point la nourriture de demain. Ils réinventent une viande ou des œufs à base de plantes. Les plus radicaux misent sur la farine d'insectes, tandis que dans les labos, les géants de l'agroalimentaire rusent pour produire un aliment moins riche en sucre ou sel. Au Québec, un intrépide entrepreneur construit des serres écolo futuristes sur le toit des immeubles et vend tomates et salades de qualité en circuit court. Plus près de chez nous, aux Pays-Bas, plus près de chez nous, l'article était écrit dans un journal français. Marc Poss, chercheur à l'université de Maastricht, s'est rendu célèbre en cultivant en labo le premier steak de cellules de bœuf. Faut-il s'inquiéter de cette révolution ou s'en réjouir? Alors, on les a interrogés et chacun a donné ses explications. D'abord, John Tetrick, PDG de Hampton Creek. La biochimie a un potentiel incroyable pour le système alimentaire. Just Mayo, le premier produit de la société Hampton Creek, est une mayonnaise composée d'œufs, entre guillemets, à base de pois jaunes du Canada. Prochain projet, des cookies et des œufs brouillés liquides. Mais l'ambition de Just Tetrick va bien au-delà des faux œufs. Si vous mettiez les gens les plus intelligents de la planète dans une pièce et que vous leur disiez « Votre boulot est de créer d'ici à 10 ans un système alimentaire qui soit viable pour 9,5 milliards d'humains. La nourriture devra être délicieuse. Elle ne peut pas causer plus de dégâts à l'environnement. Elle doit aider à résoudre le problème du réchauffement climatique. » Eh bien, ces experts n'imagineraient jamais un système alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui.
Et il ne serait pas américain non plus.
Non, c'est pas imaginable. Il ferait certainement les choses différemment. C'est une chose qui me stupéfie. Le monde est complètement accro au soja. Je crois qu'on dit soya ici. Mm-hmm. Bon, d'accord. Et au maïs. Mais les fermiers avec qui nous travaillons, eux, voient bien toute l'abondance que recèle une seule variété de pois jaunes du Canada. Le problème est qu'il n'a pas beaucoup de recherche, d'argent, des incitations à la recherche biochimie sont plutôt faibles. Là, on voit bien le spectre de l'industrie agroalimentaire derrière. Hein. Les gens n'ont pas encore fait le lien entre la biochimie et ses utilisations dans le système alimentaire, mais le potentiel est absolument incroyable. Ceux qui l'ont fait, c'est les marchands d'engrais et ils le tiennent. Alors ensuite, Ethan Brown, qui est PDG d'une boîte qui s'appelle Beyond Meat. J'aime beaucoup son intitulé. Qu'est-ce que la viande ? Beyond Meat a lancé avec succès une ligne de blanc de poulet et de bœuf haché à base de protéines végétales. Elle s'apprête à introduire sur le marché, tenez-vous bien, un hamburger qui s'appelle The Best.
Ouais, bon.
Alors, pourquoi sommes-nous différents ? Nous ne sommes pas intéressés par une solution partielle du genre burger végétarien. Nous posons une question de base. Qu'est-ce que la viande ? Si vous répondez spontanément, c'est de la chair de bœuf, de poulet, de porc, etc. Mais si vous cherchez une réponse scientifique à la question, la viande, ce sont des acides aminés, des lipides, de l'eau, des hydrates de carbone et des minéraux. Je me vois bien au restaurant commander « Je prendrai mes acides aminés bleus, s'il vous plaît. Hein, » Ça, c'est bien, non ? Et puis mes hydrates de carbone bien crus, bien cuits plutôt. Ouais, pas mal.
Alors, oui, un hydrate de carbone échalote, s'il vous plaît.
Oui, c'est avec des baguettes. C'est un ensemble agencé d'une certaine façon que nous comprenons. Nous voyons l'architecture de l'édifice, nous en avons les plans et nous allons réassembler ces cinq éléments de façon à ce qu'ils aient la même structure que celle de la viande. C'est intéressant. Avec ce genre de raisonnement, on peut aller très loin. Je vous rappelle que si nous supprimions tous les espaces interatomiques de notre corps, eh bien, nous rentrerions chacun d'entre nous dans une boîte d'allumettes. Mm-hmm. Ce qui faciliterait, évidemment, le métro le matin à Montréal. Bon, enfin bref. Alors ensuite, Andras Forgax. Lui, il est PDG de Modern Meadow. Ah, ça, c'est encore... Qu'est-ce qu'ils trouvent des beaux noms pour appeler leur boîte ? C'est bien. Alors, Modern Meadow, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il met au point un cuir élevé en laboratoire à partir de cellules souches. C'est bien, ça, vous voyez, mettre vos affaires dans votre cartable le matin. En fait, c'est des cellules souches. Moi, je trouve ça bien parce que si vous avez une petite faim dans le métro, vous mangez votre cartable.
Oui,
c'est pratique, non ?
Ultimement, on pourrait faire pousser un fauteuil.
Mais pourquoi pas ? Puis avec une imprimante 3D portable, moi, je pense que vous mettez... Oui, un fauteuil dans le métro.
Oui.
Alors, eux, ils ont fait des chips de viande. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de pectine, de gélatine et d'arôme. Cuite et déshydratée. Et il paraît que M. Sergey Brin, c'est le cofondateur de Apple, eh ben, il en mange tous les jours. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je suis en train d'empiéter sur votre temps et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Mais il y a encore une belle liste de gens qui préparent des trucs extraordinaires. Et bien, préparez-vous parce que c'est pour demain.
Oui, je me rappelle que dans votre texte, on parlait aussi des serres-loufas à Montréal qui, justement, eux, cultivent des vrais légumes sur le toit des édifices pour les vendre plus près, donc sauver le transport. Ça me choquait qu'on les amalgame à ces gens, ces apprentis sorciers, finalement, qui nous font n'importe quoi avec des protéines. Cette semaine, grosse, grosse nouvelle aux États-Unis. Je pense que ça vaut la peine qu'on se penche sur le sujet, puisque ça y est, on a annoncé qu'on allait arrêter de racheter les bons du Trésor. Virginie Montet de l'agence France-Presse a traité du sujet dans un texte qui s'appelle « L'économie quitte les soins intensifs ». Encore un titre qui dit tout ce que ça veut dire. La Banque centrale des États-Unis, la Fed, a tourné mercredi la page du soutien monétaire exceptionnel à l'économie tout en laissant les taux d'intérêt inchangés, proches de zéro. Le comité monétaire de la Fed, le FOMC, qui cite les solides gains sur le marché de l'emploi, cesse, comme attendu, ses injections de liquidités constituées d'achats de bons du Trésor, notamment. La Banque centrale promet aussi de laisser les taux d'intérêt proches de zéro pendant une période de temps considérable, mais ajoute que si les progrès de l'inflation et de l'emploi sont plus rapides, une première hausse des taux pourrait survenir plus tôt qu'anticipé. Elle note aussi que si ces progrès sont plus lents, la hausse des taux surviendra plus tard. La plupart des analystes misent actuellement sur une première hausse des taux d'ici juin 2015, alors qu'ils sont maintenus proches de zéro depuis fin 2008. Détail nouveau dans son communiqué, le comité de la Fed ne qualifie plus d'importante la sous-utilisation des ressources du marché de l'emploi. Celle-ci diminue progressivement, constate la Fed, faisant référence aux nombreux emplois à temps partiel, notamment. Le taux de chômage se situe à 5,9 % en septembre. La Fed constate aussi que l'inflation continue de se tenir sous son objectif de 2 %, notant l'influence des bas prix de l'énergie sur la faible hausse des prix. L'inflation ne dépasse pas 1,5 actuellement, selon l'indice PCE, la mesure retenue par la Fed. Comme prévu, le comité a décidé de conclure son programme d'achat d'actifs ce mois-ci, selon le comité. Ces achats de bons du Trésor et de titres adossés à des créances immobilières destinées à soutenir la reprise en mettant une pression à la baisse sur les taux d'intérêt avaient déjà été réduits progressivement à 15 milliards de dollars mensuels. Depuis 2 ans, la Fed a injecté quelque 1 600 milliards, le chiffre est impressionnant, dans le système financier à travers ce troisième volet de soutien monétaire exceptionnel. La Fed assure qu'elle continuera toutefois à réinvestir le produit de ses titres arrivant à maturité et à les garder à son bilan, ce qui devrait aider à maintenir les conditions financières très accommodantes. À travers ces 3 phases de stimulus exceptionnel depuis 6 ans, la Fed a en effet accumulé près de 4 500 milliards de dollars d'actifs à son bilan. Et ça, c'est de l'argent scriptural, simplement écrit, et on a acheté 4 500 milliards de dollars comme ça pour relancer l'économie américaine. Il n'y a qu'aux États-Unis où on peut envisager une chose pareille. Un seul membre du comité a voté contre cette décision en la personne de Narayana Kosher-Lakota, président de l'antenne régionale de la Fed de Minneapolis. Ce responsable, connu pour être du côté des colombes, plus préoccupé par le chômage que par l'inflation, estime que la Fed devrait garder des taux bas pendant une période plus longue avant que l'inflation ne remonte vers l'objectif de 2 %. Le fait que les 2 précédents dissidents, Charles Plusser et Richard Fisher, aient réintégré mercredi le rang de ceux approuvant le message de la Fed montre que l'orientation de la Banque centrale est moins conciliante. Ces 2 responsables, connus pour être dans le camp des faucons, et il y a un jeu de mots terrible qui me vient à l'esprit ici, moins favorables à une politique ultra-accommodante, avaient en septembre voté contre le message d'orientation monétaire qui assurait sans plus de précision que les taux resteraient inchangés pendant une période de temps considérable. En dépit des turbulences récentes sur les marchés, le comité de la Fed, finalement, est davantage du ressort des faucons, soulignait Paul Ashworth, économiste en chef pour Capital Economics. L'abandon du terme « important » pour qualifier la sous-utilisation du marché de l'emploi pourrait bien s'avérer « important », ajoute cet analyste. Plusieurs notaient aussi que la Fed n'a fait mention ni de la volatilité des marchés financiers récemment, ni du ralentissement de la croissance en Europe ou en Chine. La Fed n'a assurément pas donné d'indication que les récentes turbulences sur les marchés ont modifié leur façon de voir, notait Jim O'Sullivan de HFE. La Fed juge que l'expansion de l'activité de la première économie mondiale reste modérée. Le gouvernement doit publier jeudi sa première estimation pour la croissance au 3e trimestre. La prévision médiane des analystes table sur 3 % en rythme annualisé après la belle performance du 2e, 4,6 %. Celle-ci représente un rebond en partie technique à la suite de la contraction du 1er trimestre, on avait perdu 2,1 % aux États-Unis, dû à l'hiver difficile. Wall Street a fini en légère baisse mercredi, accueillant sans sourciller l'annonce de la Fed et le ton le plus ferme que prévu de son communiqué. Selon les résultats définitifs, le Dow Jones a cédé 0,2 % ou 31,44 points à 16 974 points, ce qui est quand même pas dramatique comme on peut le voir. Je rappelle ici que les marchés avaient très, très peur de cette annonce-là de la Fed qui, en rachetant comme ça des titres, faisait en sorte qu'il n'y avait plus d'argent dans le circuit et donc que les entreprises pouvaient emprunter de l'argent et en trouver pour financer leurs projets. Donc, le retrait éventuel de cette politique de rachat-là faisait en sorte que les entreprises américaines craignaient une contraction sévère du crédit. La Fed a réussi à surprendre ce qu'elle n'a plus fait depuis longtemps, a commenté Grégory Volokhin de Meschert Financial Services. En effet, si comme attendu, la Fed a mis fin à son programme exceptionnel de rachat d'actifs et maintenu inchangé ses taux d'intérêt directeurs proches de zéro, le ton de son communiqué est apparu plus ferme qu'attendu, a estimé Hartogan de Wunderlich Securities. La politique dite de l'argent facile a largement participé à l'essor du marché ces dernières années et tout signe annonçant sa fin anticipée était jusque-là particulièrement craint. Mais les marchés le prennent très bien et c'est aussi ça la surprise, a souligné M. Volokhin.
Je trouve que cette mesure est d'autant plus justifiée qu'il ne faut pas l'oublier. Aux États-Unis, les banques prêtent sur leurs fonds propres, contrairement à l'Europe où les banques réempruntent pour pouvoir financer les prêts qu'elles consentent.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the time come at night, with a voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame.
Vous rappelez-vous de cette vidéo virale sur Internet où on voyait une candidate inattendue remporter un prix comme ça dans une émission anglaise de découverte de talent? Eh bien, cette candidate, c'était Susan Boyle. Et si vous ne vous rappelez plus d'elle, elle vient de se rappeler à votre souvenir dans ce qui est son répertoire, celui des comédies musicales. Ça n'a aucun rapport, mais on va parler de code de crédit.
Oui, voici de précieux conseils. 6 exactement, pour nous aider à améliorer notre code de crédit. Alors, on le sait, cette maudite cote nous suit partout. Et dès qu'il faut mettre un pied dans les circuits d'argent, il vaut mieux que ce pied soit une patte blanche. Alors, comment la garder la plus blanche possible? Alors, ça a intéressé un anonyme, parce qu'il n'a pas signé son article dans Les Affaires, le 24... octobre dernier, 6 façons d'améliorer votre cote de crédit.
Il ne voulait pas qu'on aille vérifier.
Oui, c'est peut-être ça. Ouais. Une mauvaise cote de crédit est en quelque sorte comme la grippe. Elle se présente sans s'annoncer à des périodes inopportunes, comme la saison des fêtes, et vous sape votre énergie, vous laissant léthargique et incapable de vous atteler à vos tâches. Malheureusement, les deux ont la capacité néfaste d'envahir votre vie jusqu'à ce que vous vous en débarrassiez. À la différence de la grippe, une mauvaise cote de crédit ne se présente pas seulement à l'occasion et ce n'est pas quelque chose dont il faut s'accommoder pendant seulement quelques jours. Elle reste là à l'année, longue, et affecte pratiquement toutes les facettes de l'existence. Par exemple, si vous avez une mauvaise cote de crédit, vous ne pourrez pas vous acheter une maison parce que les banques ne vous donneront pas une hypothèque, vous ne pourrez pas vous acheter un véhicule parce qu'il vous sera impossible de vous procurer un prêt automobile et vous ne pourrez pas avoir un contrat de téléphone mobile parce qu'aucune société ne voudra traiter avec vous.
Ah, c'est pour ça!
Oui, tout s'explique, hein, finalement. Si vous ne vous occupez pas de rectifier votre cote, son impact sur votre vie sera préjudiciable, dit Mélissa Harman, directrice des services bancaires aux étudiants à RBC. Mais il y a de l'espoir parce que si l'on fait ce qu'il faut, améliorer sa cote de crédit est assez simple. La première chose à faire, c'est de s'instruire sur le crédit, dit Penelope Graham, rédactrice de Rate Supermarket CA. Dans cet article, j'ai explicité les principaux aspects de base du crédit, notamment la manière dont il faut comprendre sa cote et son dossier de crédit. Voilà 6 autres façons d'améliorer votre cote de crédit. Ne dépassez jamais un ratio dette-crédit de 50%. Par exemple, garder un solde de 5 000 $ sur une carte de crédit avec une limite de 10 000 $ est un ratio dette-crédit de 50%. Les prêteurs considèrent que c'est acceptable. Toutefois, dès qu'on a dépassé les 50%, disons 7 000 $ sur une carte de crédit de 10 000 $, on est considéré comme présentant un risque et sa cote de crédit commence à baisser. Pour éviter une baisse de votre cote de crédit, payez vos cartes de crédit et autres factures immédiatement, dit Mme Graham. En fait, elle suggère de conserver son ratio dette-crédit à 30% de manière à ne pas avoir une mauvaise réputation auprès des prêteurs. Soyez rigoureux dans le paiement de vos factures. L'hypothèque, les cartes de crédit, la facture d'électricité. Toutes ces transactions sont inscrites dans les registres des agences d'évaluation du crédit et il faut donc vous assurer que vous payez vos factures à temps. Vous vous ferez une grosse faveur en le faisant et cela va ensuite améliorer votre cote de crédit, dit Mme Graham. Le crédit est coté de 1 à 9 selon qu'on le rembourse sa dette rapidement ou non. 1 veut dire qu'une dette est remboursée dans les 30 jours et 9 indique des créances irrécouvrables ou la faillite. Cliquez ici pour avoir plus d'informations sur les cotes de crédit, hein, vous dit-elle sans vous dire où il faut cliquer. Mais on a bien compris qu'il fallait avoir des réflexes de ce genre. Ne perdez pas de vue combien vous achetez à crédit. Voilà où on a tendance à déraper, dit Mme Graham, par exemple. Lorsqu'on perd la notion des raisons pour lesquelles on s'est servi d'une carte de crédit. Tiens, ça me fait penser à mon fils, ça. Bon, enfin, oublions. Donc, sachez exactement combien vous payez et exactement aussi quand vous remboursez. Madame Graham suggère de garder un carnet ou un tableur où sont consignés tous les achats. Elle dit aussi qu'il est très important de ne pas oublier qu'une carte de crédit n'est pas de l'argent supplémentaire, mais un emprunt consenti à soi-même. Par conséquent, si l'on s'emprunte de l'argent à soi-même, il faut avoir une idée ou un plan sur la manière de le rembourser et le moment de le faire. Contestez les erreurs. Si vous repérez une erreur dans votre dossier de crédit, prenez immédiatement contact avec l'agence que vous utilisez, Equifax ou TransUnion. Au terme de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ces deux sociétés sont tenues de vérifier l'exactitude des informations contenues dans un dossier de crédit et de lancer, si nécessaire, une enquête. Il y avait une émission très amusante en France, autrefois, qui s'appelait Palace, et dans laquelle il y avait Claude Piéplu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet acteur qui était assez drôle. Alors, il parlait d'une question juridique totalement farfelue, où il vous proposait de prendre vos droits en main, et il finissait par cette formule que j'aime beaucoup. C'est un droit établi et que peu de gens connaissent. Mais ça existe aussi, le droit établi, que peu de gens connaissent. Ensuite, contactez le prêteur. Il est absolument recommandé de communiquer avec votre prêteur pour lui faire savoir si votre situation financière a changé et que vous n'êtes plus en mesure d'effectuer certains paiements, dit Mme Graham. Si vous avez dans votre vie des circonstances atténuantes, comme la perte de votre emploi ou la maladie d'un parent, votre prêteur peut vous proposer un rajustement de bonne volonté. Ah bon, il y a des prêteurs de bonne volonté, sympa ça. Qui peut être soit une réduction, soit une radiation de vos paiements. Ah, ça, c'est ceux de très bonne volonté, d'accord. La meilleure façon d'obtenir ce type d'arrangement est par courriel ou par lettre, et d'y demander au prêteur de fermer les yeux sur une partie de vos paiements en retard pour des raisons personnelles. Ben voyons. J'y crois pas trop, moi, à ça.
Aux yeux d'un prêteur, il faut savoir qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un débiteur insolvable qui ne se signale pas, puisque son risque est hors de contrôle à ce moment-là. Ouais. Alors, à partir du moment où les gens ont à cœur de dire « j'ai des difficultés, je n'arriverai pas à faire tel ou tel paiement ce mois-ci, est-ce qu'on peut le reporter à la fin du prêt ou trouver des accommodements », eh bien, c'est très rassurant pour un prêteur. C'est mauvais pour votre cote de crédit, oui, mais c'est beaucoup moins dramatique qu'un impayé complet dans le silence et dans la disparition du débiteur.
J'aurais tendance, et là, je me sens de me mettre à votre place, que l'argument se retourne. C'est-à-dire que si je me signale, je donne un argument supplémentaire au prêteur pour se débarrasser de moi.
Un défaut, effectivement.
Bon, allez, on finit là-dessus.
Vous savez, Eric, quant à moi, pour améliorer ma cote de crédit, j'avais trouvé une solution fantastique, mais ça impliquait la découverte du siège social d'Equifax et un peu de dynamite, mais enfin. Mesdames, vous demandez-vous quand notre économie vous fera autant de place qu'à vous, messieurs? Je pense que c'est une bonne question. Ça fait des années qu'on fait des efforts en ce sens. Eh bien, d'après le Forum économique mondial, c'est-à-dire les gens de Davos, c'est en 2095 que l'économie occidentale fera autant de place aux femmes qu'aux hommes, c'est-à-dire des salaires égaux pour un travail égaux et des postes, des vraies chances d'avoir des postes dans les entreprises, des postes de direction et d'administration. Voilà.
Mais ça sera sûrement le cas beaucoup plus tôt à Sherbrooke, parce que savez-vous que Sherbrooke figure dans le palmarès 2015 des 21 villes les plus intelligentes au monde, hein, sélectionnées parmi les candidatures de 400 villes. On aura les résultats assez rapidement. Il y aura l'élection de la ville la plus intelligente du monde en juin à Toronto. Nous suivons l'affaire.
Pétrole, tiens, retournons sur le marché du pétrole parce que Hélène Barry, dans la presse, a fait état d'une recherche réalisée par le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Recherche qui est à l'effet que si on diminuait notre consommation de pétrole, eh bien, on pourrait stimuler massivement notre économie. Les solutions simples, si vous achetez un véhicule qui consomme, on vous donne un impôt. Si vous achetez un véhicule qui consomme très, très peu, on vous rend de l'impôt. Des solutions qui ne coûteraient rien pour l'État et qui éventuellement permettraient d'améliorer la balance commerciale québécoise, puisque c'est le principal poste de dépense vers l'étranger, et accessoirement de nous sauver une couple de milliards chaque année.
Cette réduction de la consommation est évidemment une bonne chose. Mais savez-vous que ce qui se réduit aussi, eh bien, ce sont les téléchargements de musique. iTunes est en perte de vitesse. Alors, je parle bien sûr des téléchargements légaux, les seuls que nous fassions, bien entendu. Eh bien, ils sont en baisse pour les différents services et iTunes ne fait pas exception à la règle. C'est une chute de 5,3% des ventes l'année dernière et le déclin, malheureusement, s'accélère.
Vous dirais-je qu'en Hongrie, il y a 10 000 manifestants qui sont descendus dans la rue récemment pour protester contre une décision de l'État qui, justement, voulait taxer le téléchargement par Internet, en fait, taxer l'utilisation d'Internet, hein, au gigaoctet. On vous envoie un compte de taxe parce que vous avez téléchargé. Évidemment, il s'agit pour le gouvernement hongrois d'encourager les commerces locaux qui ne sont pas de taille sur Internet et décourager l'Internet, mais les gens ont très, très mal pris la nouvelle. Voilà.
Moi, je me suis demandé si ce n'était pas un sous-marin par rapport à ce qu'on a évoqué il y a deux semaines, à savoir le fait que les États-Unis envisageaient de rendre l'Internet à deux vitesses, l'Internet rapide, celui que nous connaissons, deviendrait payant.
C'est très possible, très, très possible à long terme. Récupération du verre. Il y a un mouvement actuellement qui dit « Ramenez vos bouteilles à la SAQ si vous avez... » On sait bien, la SAQ ne reprend pas ses bouteilles. Il n'y a pas de consigne sur la bouteille de vin ici ou la bouteille d'alcool d'une manière générale. La SAQ n'en veut pas. Il y en a en Ontario, par contre, il y en a dans d'autres provinces canadiennes. Et il y a des raisons à ça. Il faut savoir que le verre que vous déposez dans votre bac à recyclage est de trop mauvaise qualité parce qu'il est mélangé au reste du contenu de votre bac. Résultat, il y a des entreprises, la Dominion Glass à Montréal, fait venir du verre pilé d'Ontario puisqu'elle ne peut pas s'approvisionner au Québec. Et tout le verre qu'on envoie au recyclage actuellement finit à l'enfouissement ou dans les routes comme matériau de remplissage. Et c'est un gaspillage net. Donc, le mouvement dit il faut arrêter ça, il faut que notre verre redevienne des bouteilles utilisées. Et la façon de le faire, la plus efficace qu'on ait trouvée jusqu'à maintenant, c'est de mettre la SAQ devant le fait accompli en ramenant les bouteilles à la SAQ puis en la forçant à gérer son recyclage.
Suivez de ce pas en sortant du studio. Une voix s'élève, et non des moindres, la voix d'Elon Musk. Qui c'est Elon Musk? C'est le fondateur de PayPal, SpaceX et Tesla Motors. Eh bien, il dénonce l'intelligence artificielle comme une menace pour l'humanité. Il craint que son développement ne soit ce danger. Et lors d'un symposium la semaine dernière, le célèbre entrepreneur a fait part de ses inquiétudes. Pour lui, l'humanité risque d'ouvrir la boîte de Pandore. Je vous rappelle qui était Pandore. C'est dans la mythologie chrétienne, la mythologie grecque, l'équivalent de Ève, c'est-à-dire la première femme. Et comme on le sait...
La femme d'Épithémée qui promettait, avait dit « n'ouvre pas la boîte ».
Oui, mais... moi, je trouve qu'il en est sorti des choses magnifiques, donc je conteste un petit peu cet attribut. Mais bon, on peut discuter.
On ne parle pas souvent d'Afrique pour en parler en bien quand on parle d'économie. Eh bien, j'ai une nouvelle qui est quand même étonnante. Il y a plus d'un Africain sur trois maintenant qui appartient à la classe moyenne. Bon, évidemment, c'est le barème africain de la classe moyenne, c'est-à-dire un revenu quotidien qui oscille entre 2,20 $ et 20 $ américains par jour. C'est comme ça qu'on définit la classe moyenne en Afrique. Mais c'est quand même un progrès notable et c'est un progrès notable en Afrique centrale beaucoup. Ça aussi, c'est très étonnant.
Et l'avenir est à l'Afrique, pas à la Chine.
Vous l'entendez, notre indicatif qui nous signale que cette heure est déjà terminée et qu'on doit vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission de Kiosque Économie et un emploi. Pour l'instant, on cède le micro et on vous invite à demeurer à l'antenne. Merci à Kamal Salifou qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux. Merci.
Bonne journée à tous.